autour de la question.
D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver en compagnie de mes consoeurs et confrères de la presse scientifique pour cette première table ronde de l'année 2022 qui s'annonce déjà intergalactique, comme vous allez le découvrir dans le miroir du James Webb Télescope, chers amis auditeurs, et grâce au magazine que nous vous offrirons tout au long de l'émission qui abordera les questions les plus sidérales et sidérantes ouvertes par les différentes missions spatiales présentes et à venir vers d'autres planètes, habitables ou habitées, c'est bien toute la question. ExoMars attendu en 2022, mais aussi les découvertes du rover Perseverance nous forceront-ils à réécrire toute l'histoire de l'eau sur Mars et ailleurs? On s'interrogera avec Philippe Hénarejos de Ciel et Espace, avec Mathilde Fontaise d'Epsilon, nous nous demanderons du coup si la Terre ne serait pas unique en son genre. Existe-t-il vraiment dans l'univers d'autres planètes aussi singulières et donc d'autres formes de vie extraterrestres? Nous nous pencherons aussi sur les échantillons lunaires rapportés par la récente mission chinoise avec Mathieu Novak de Science et Avenir qui nous en dira un peu plus sur la matière même de la Lune. Entre science et science-fiction, nous nous demanderons ensuite que faut-il attendre des embryons humains artificiels que les chercheurs tentent de concevoir dans les laboratoires du monde entier pour le meilleur, on l'espère, et pas pour le pire, comme nous l'expliquera Thomas Cavaillé-Foll de Science et Vie. Histoire de nous remettre de nos émotions, nous découvrirons les bienfaits du silence. Oui, oui, du silence, même à la radio, avec Cécile Lestienne de Cerveau et Psycho, le silence comme énergie douce pour régénérer notre cerveau, rien que ça. À suivre autour de la question comment la science infuse et se diffuse, on commence évidemment par le Noël du James Webb Télescope, lancement réussi le 25 décembre dernier du plus cher, du plus énorme, du tant attendu James Webb Télescope à Kourou en Guyane, sous les yeux émerveillés des scientifiques de la NASA et de l'ESA, mais aussi de notre envoyé spécial et spatial Simon Rosé qui nous racontait ici même lundi dans ce studio 42 la suite des aventures du Webb Télescope.
Même pas 3 minutes après le lancement, le Webb a déployé son panneau solaire. Donc, c'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle, il est autonome, il peut gérer sa propre électricité. Mais après, tout cet origami qui était replié dans la coiffe...
Origami de miroirs,
de miroirs, bah, de boucliers thermiques, de bras, d'antennes qui étaient repliés dans la coiffe d'Ariane 5, hein, il fallait que ça... Bah, doit se déplier et prendre sa forme finale. Pour ça, il y a 29 jours, le temps qu'il parcourt le 1,5 million de kilomètres qui le sépare du point de Lagrange. C'est pas si loin que ça si on compare à des missions martiennes ou à des missions comme Rosetta qui vont tourner autour de Chury. Ça reste quand même une belle distance, mais il faut que 29 jours pour y aller. C'est le temps qu'il va mettre à se déployer. Donc là, les premières étapes se sont passées sans encombre, notamment ce bouclier thermique qui a été déployé. Maintenant, il faut le tendre. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une opération qui est assez complexe, qui est très critique. Et si elle ne fonctionne pas, les 10 milliards, ce sera qu'un bout de métal dans l'espace qui ne servira à pas grand-chose parce qu'on ne pourra pas les réparer. Ce sont les équipes de l'Institut du télescope spatial qui gérait déjà Hubble, qui se trouve à Baltimore, qui s'en occupent, qui ont pris le relais après le lancement. Et après, il faudra déployer ce miroir qui est replié en 3 parties. Il faudra le déployer, refroidir tous les instruments. Ça dépend desquels, mais en gros, ils vont fonctionner entre moins 244 et moins 266 degrés Celsius. Donc, non, c'est un joyeux bazar.
Un joyeux bazar. En effet, on croise les doigts pour les déployages du James Webb Télescope en ce début d'année 2022, décidément très spatial. Alors, on en parle avec vous, Mathilde Fontaise, bonjour.
Bonjour.
On en parle avec vous, Mathieu Novak, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Merci à tous les deux d'être en studio avec nous. Et nous sommes aussi, mais alors cette fois-ci à distance, Covid oblige, avec Philippe Hénarejos. Bonjour Philippe.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, Philippe Hénarejos de Ciel et Espace, bah oui, on est déjà dans l'espace. Qu'est-ce que vous attendez, Philippe, de cette année, avec toutes les missions prévues, tout ce qu'on attend, les résultats? Il va falloir faire un choix, faire un tri, mais ce serait quoi votre, je sais pas, tiercé de l'année?
Allez, je vais devoir faire un choix. Juste mais au passage, il est 15h15 et à 7h06, le JWST doit commencer à déployer son miroir secondaire. Bon, on verra si ça marche.
Hein. Ah, là maintenant, là maintenant.
Là, en direct, ouais. Alors, en 2022, je vais évidemment attendre le premier lancement de la fusée géante américaine lunaire SLS avec la mission Artemis 1 qui n'arrête pas de prendre du retard, qui est annoncée pour le printemps, mais si elle est lancée cet été, ça sera bien, on va dire.
On compte dessus pour 2022.
J'attends évidemment... Pardon ?
On compte dessus pour 2022, Artemis.
Oh, oui.
Wow.
J'attendrai évidemment d'ici dans 6 mois environ, 6-7 mois, les premières observations faites avec le JWST, peut-être sur des cibles déjà observées par le télescope Hubble. J'attendrai évidemment le lancement d'ExoMars, le lancement d'une mission lunaire dont on parle peu, une mission russe, Luna 25, qui a été repoussé d'année en année, mais qui pointe le bout de son nez pour cet été. Évidemment, cet été aussi, il y aura Ariane 6 qui devrait faire son vol inaugural. Et puis, pour parler d'observation, ce n'est pas un tiercé que je vous ai donné, c'est un quintet plus. Hein. pour parler d'observation, n'oublions pas que le 1er décembre prochain, la planète Mars sera au plus près de la Terre. Alors, ce ne sera pas une opposition magnifique, elle ne sera pas hyper proche, mais elle sera très proche et assez haut dans le ciel, de sorte que les astronomes vont pouvoir l'observer dans de très bonnes conditions au télescope.
Avis à nos astronomes amateurs, notamment sur le continent africain, que l'on salue. Alors Mathilde Fontaise, avant de plonger avec vous dans le dossier d'Epsilon, si la Terre était unique, on va y venir. Mais qu'attendez-vous sur Terre, hein, bien sûr, pour 2022 ?
J'ai du mal à dire autre chose que les premières images de JWST en juin.
Ah, c'est ça,
c'est
vraiment.
Difficile de passer c'est difficile de passer à côté de ça.
Et parce qu'il va vraiment explorer.
Il va commencer par. On ne sait pas en fait quelles vont être les premières images publiées. La NASA garde ça secret. On sait qu'il va d'abord regarder des cibles. Il va d'abord balayer de manière très variée. Donc il va y avoir sans doute des images de systèmes solaires, de notre système solaire, sans doute des géantes, etc. Ou des lunes, des géantes. Et puis il y aura un échantillon galaxie, un échantillon nuages de poussière dans lesquelles naissent les planètes, etc. Il y aura une première salve d'images publiées qui sera presque de la communication, on dira, au départ. Et puis après, les premiers programmes d'observation vont commencer. Et ça, on a là, pour le coup, on sait exactement quelles cibles vont être observées dans les premières semaines et les premiers mois. Donc oui, ça va être un grand moment, je pense. Et puis, il y a une autre mission spatiale que moi, j'attends. C'est une mission qui s'est envolée il y a quelques semaines, qui s'appelle la mission DART, et qui vise à tester la déviation d'astéroïdes dans l'espace. Donc, on sait que cette menace existe, qu'elle est faible, mais qu'elle peut... Voilà, et on aimerait quand même pouvoir s'entraîner à voir ce qui se passe quand on envoie quelque chose dans un de ces astéroïdes. D'autant plus que les missions Hayabusa...
Japonaise
Hayabusa et la mission américaine, dont j'oublie le nom là à l'instant, mais il me reviendra, ont pu observer deux de ces astéroïdes faire des prélèvements. Les premiers résultats d'Hayabusa 2 viennent de paraître et il s'avère que ces astéroïdes sont extraordinairement poreux. Donc en fait, sans doute que quand on va vouloir aller envoyer quelque chose dedans, ça ne va pas du tout faire ce qu'on imaginait, c'est-à-dire comme des billes, mais ça va sans doute être très différent. Et donc ce premier test en fait, de collision, donc c'est une sonde qui est partie et qui va tout à fait foncer dans un astéroïde. En fait, c'est un petit astéroïde qui tourne autour d'un autre. Et comme ça, voir comment sa course est déviée. Et donc derrière, pouvoir prédire ce qui se passerait si nous, voyant un astéroïde qui nous arrivait, on faisait comme dans les films américains.
C'est ça, comme dans les films
bien.
De science-fiction. Et comme ça, le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Donc voilà. On attend de savoir qu'est-ce qui se passe quand on percute un astéroïde.
On va pouvoir le tester pour la première fois.
Merci. Et vous, Mathieu Novak, alors avant de découvrir les échantillons lunaires que vous allez nous faire partager, la dernière mission chinoise, ce sera dans son ciel à venir, vous espérez quoi pour 2022 ?
Oh, je vais formuler un vœu qu'on en sorte de cette pandémie, que le Covid-19, là on est en 22, donc je pense qu'après 2 ans, là ça fait 2 ans qu'on en parle, l'humanité a payé un lourd tribut et est fatiguée. Mais ce que j'espère aussi, c'est que finalement, il y a toujours un revers de la médaille et que là, ici, c'était ces vaccins à ARN messager. Alors, pour aller au-delà du vaccin, mais c'est cette technologie ARN messager. C'est quelque chose qui était dans les laboratoires. Ça fait plus de 50 ans qu'on a découvert l'ARN, notamment par des chercheurs français d'ailleurs, qu'il y avait quelques chercheurs, quelques start-up qui travaillaient, mais sur la possibilité de faire des traitements à base d'ARN messager. Mais si on se replonge 2 ans en arrière, il y a beaucoup de gens qui mettaient encore en doute que jamais ce serait possible de le transformer en un traitement effectif, efficace. Et 2 ans après, on en a produit des milliards de doses avec une efficacité qui est avérée. Alors, au-delà, j'aimerais bien qu'on arrête de parler du Covid, mais qu'on parle d'autre chose. Et que ce soit aussi bien les laboratoires privés comme Moderna que les laboratoires publics, il y a beaucoup de travaux, par exemple pour faire des vaccins contre la grippe, mais aussi pour faire des traitements contre des cancers. Il y a des essais déjà assez avancés contre le cancer colorectal, où en fait, on va apprendre le système immunitaire à reconnaître des protéines des cellules cancéreuses et à s'y attaquer. C'est une grosse promesse. Peut-être que ce sera la révolution du 21e siècle, on ne sait pas encore, mais qu'on passe à autre chose que le Covid.
Qu'on passe à autre chose et peut-être savoir. Qu'effectivement, ça nous aura appris quelque chose pour d'autres Absolument. Vaccins, pour d'autres techniques. On pense évidemment au HIV-Sida et au paludisme. Alors 2022, l'année du mieux, hein, c'est ce qu'on espère de tout cœur, c'est le meilleur que l'on puisse se souhaiter. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse en ce mercredi 5 janvier sur RFI et sur notre planète bleue, la Terre est-elle unique dans l'univers? Titre en forme de point d'interrogation pour le dossier d'Epsilon à suivre avec vous Mathilde Fontaine. Juste après ce morceau, sorte d'hommage amoureux à notre si singulière planète, la seule pour l'heure, à abriter la vie, c'est signé Gabriel Saglio sur RFI, Ma Terre.
Je t'ai trouvé si belle dans ta robe bleue. Ta liberté sauvage m'avait sauté aux yeux. Pourtant tu fus mienne et je t'ai cru entière. Invitant dans le lit de tes mille rivières. J'ai parcouru ton monde tout émerveillé. J'ai vu de ta beauté les incroyables sommets. J'ai ressenti tes ondes, toutes époustouflées. J'ai vu de ta douceur les incroyables effets. Je me doutais qu'existaient toutes tes failles. Je savais tes déserts tant t'étant traversés. J'ai cru cette nouvelle ère, j'ai cru nos fiançailles. Mais mon petit paradis découvre ton entièreté. T'aimais autant ma terre, t'aimais autant ma terre. Liés, liés, nous sommes liés. Liés pour le meilleur, j'espère. T'aimais autant ma terre, t'aimais autant ma terre. Liés, liés, nous sommes liés. Liés pour le meilleur, j'espère. Te souviens-tu allongé, nous regardions le ciel. Mais où sont donc passés de tes printemps les ailes? Quelles sont les d'une à une toutes tes coupes? Moi qui t'aimais sauvage, me perdant dans tes boucles. Tu étais si puissante et toi seule décidais. Tous craignaient tes colères et le feu de tes plaies. Mais en secret tes larmes avaient un goût salé. Quand nous baissions les armes en baie de Douarnenez. Puis c'est tant d'hommes de pouvoir qui t'ont berné. Tant de promesses qui pour finir te mineraient. De tes tempêtes, 1000 spécialistes m'ont alerté. Tu glisses et la pente sera dure à remonter.
Gabriel Saglio sur RFI, Ma Terre. Et si la Terre, notre Terre, était unique, c'est le grand dossier d'Epsilon de ce mois de janvier, Mathilde Fontaine, dont je vous rappelle, chers amis auditeurs, que nous avons un exemplaire à vous offrir. Si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, la Terre serait-elle, Mathilde, la seule planète habitée et habitable? Au fond, c'est ça la question.
C'est ça la question et elle se pose depuis longtemps, mais elle a été renouvelée récemment. Par l'observation de Vénus. Alors pourquoi Vénus? Parce que Vénus, c'est une... Enfin, pas l'observation, mais plutôt la modélisation de Vénus. Vénus, c'est notre jumelle. Elle est pratiquement de la même taille, de la même densité que la Terre. Elle est juste un tout petit peu plus près du Soleil. Mais on sait aussi que le Soleil, dans son enfance, était 30% moins lumineux qu'aujourd'hui. Et donc, depuis longtemps, on modélise le climat de Vénus et on se demande pourquoi est-ce que Vénus est devenue cet enfer. Il faut rappeler que Vénus, aujourd'hui, c'est 450 degrés de température en moyenne. Donc,
un véritable enfer.
Hein. C'est un véritable enfer, Et c'est en fait un effet de serre qui s'est emballé et qui a rendu la planète complètement invivable. Pourquoi Vénus est-elle devenue comme ça? Et est-ce qu'au départ, elle aurait pu avoir des océans liquides? Puisqu'il faut rappeler... Qu'est-ce que c'est qu'en fait l'habitabilité, la vie, etc. C'est en premier lieu de l'eau liquide en surface. C'est un petit peu le seul critère qu'on a trouvé qui soit. On sait très bien que sur Terre, on ne trouve aucun endroit Où il y a de l'eau et où il n'y a pas de vie. Il est très difficile pour la vie, par ailleurs, de se développer quand il n'y a pas d'eau. Et puis, c'est un... Disons qu'un alors, ça pourrait être des océans sous terre sur des planètes, sur d'autres planètes.
Comme c'est le cas sur Mars, par exemple.
Sur Mars, on pense qu'il y a eu de l'eau par le passé, mais il y a des lunes, des géantes, des géants dans le système solaire qui sont soupçonnés d'avoir des océans sous glaciaires.
D'accord.
Le problème, c'est que c'est très difficile d'observer et d'étudier ces océans puisqu'ils sont sous le sol et qu'on a du mal à les voir avec des télescopes. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on a un critère comme ça qui est celui de l'eau liquide en surface et la grande question de savoir si Vénus a été recouverte d'océans par le passé, puis ensuite tout s'est mal passé pour qu'elle devienne cet enfer. Et beaucoup de modèles avaient été fait et Vénus, son cas n'était pas réglé. Elle était pile juste à la limite qui la faisait basculer soit d'un côté, soit de l'autre. Et là, un modèle vient de trancher. C'est un modèle qui, pour la première fois, a simulé la planète depuis sa naissance. C'est-à-dire, juste après que les roches se soient agglomérées et quand la planète est encore chaude, comme une sorte de planète magmatique. Et puis ensuite, elle dégaze son atmosphère, etc. Et à partir de là, les chercheurs ont pu modéliser le climat avec un modèle qui est un modèle ancien et qui a fait ses preuves sur toutes les planètes qui ont des atmosphères dans le système solaire jusque-là et qui reproduit très bien les climats. Et les chercheurs ont trouvé deux phénomènes qui interdisent quelque part à Vénus de condenser ses océans. En fait, ils se sont aperçus que Vénus, d'un côté... Donc Vénus, en fait, elle regarde toujours le Soleil... Enfin, elle tourne très, très lentement, disons, autour du Soleil. Et donc, elle a un côté nuit, un côté jour, la plupart du temps. Et les chercheurs se sont aperçus que du côté jour, il n'y avait pas du tout de nuages. Aucun nuage ne se forme, ce qui fait que le Soleil brille et frappe complètement la planète et la réchauffe. Sans pouvoir être réverbéré en quelque sorte par les nuages. Et de l'autre côté, il y a une couverture nuageuse massive qui se forme et qui la crée un effet de serre et qui renforce cet effet. Donc les deux effets vont dans le même sens et font de Vénus une espèce de cocotte minute qui n'est jamais assez froide pour pouvoir condenser ses océans. Alors on pourrait s'arrêter là, c'était déjà une très grande découverte et c'est rare que des modèles soient aussi affirmatifs, mais les chercheurs du coup n'ont pu s'empêcher de se dire tout de même mais alors qu'est-ce que ça veut dire pour l'habitabilité dans l'univers en général ? Puisque si on a comme ça cette Terre qui est dans le système solaire et qui, elle, a de l'eau liquide. Cette Mars qui a eu un petit peu d'eau liquide, qui est un petit peu plus loin du Soleil que la Terre, qui a eu un petit peu d'eau liquide au début de sa vie, mais qui n'en a plus maintenant. Et cette Vénus qui n'a jamais pu en avoir alors qu'elle est juste un petit peu plus proche du Soleil, cette fenêtre n'est-elle pas... est vraiment étroite. Et ce nouveau modèle sur Vénus, en fait... va avoir tendance en plus à la rendre encore plus étroite.
C'est-à-dire que vraiment, la Terre est singulière dans le système solaire, singulière dans l'univers, sauf que, Mathilde Fontaise, on ne cesse de découvrir des exoplanètes ailleurs, donc dans d'autres systèmes solaires que le nôtre. Et donc, est-ce qu'il y aurait d'autres exceptions possibles ? Au fond, c'est ça qu'il faudrait essayer de chercher, peut-être.
C'est la question qui se pose. Et la première question qui se posait, c'était de savoir est-ce qu'il y a beaucoup de planètes dans la galaxie ? Est-ce qu'il y a beaucoup de planètes autour des étoiles ? La réponse a été donnée depuis 1995, et surtout après les mesures du télescope Kepler. Aujourd'hui, on en est à 4500 exoplanètes. On pense que quasiment toutes les étoiles ont une planète en orbite, au moins. Et donc, il n'y a pas de doute. Il y a des planètes à profusion autour de toutes les étoiles de la galaxie. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des planètes qui sont habitables, c'est-à-dire qui sont à bonne distance, est-ce qu'elles sont communes ou non ? Et jusque-là, on pensait qu'il y avait... On voit sous le lampadaire, on n'a que notre propre exemple de naissance, d'émergence de vie sur une planète. Et comment est-ce qu'on qualifie les critères qui peuvent donner à une planète la capacité à abriter la vie ? C'est difficile. Mais même pour cette histoire juste d'eau, on voit que c'est la fenêtre est assez restreinte. Et après, à cela s'ajoute, effectivement, est-ce que l'interaction entre, je ne sais pas, le manteau de la Terre et l'atmosphère va jouer ? Est-ce que la tectonique de plaques qu'on a chez nous, en fait, et qui joue un grand rôle dans la régulation du climat, qui a fait qu'au fil des années, enfin des milliards d'années depuis la naissance de la Terre a toujours pu garder son eau liquide en surface ? Est-ce que cette tectonique des plaques-là est vitale ou pas pour garder la vie ? On a cette collision originelle tout à fait singulière qui a donné naissance à notre Lune. On a une Lune très spéciale, qui est très grosse et qui est née de la collision de notre Terre primitive avec un astre de la taille de Mars. Les deux ont collisionné et ça a donné notre Lune. Et il y a beaucoup d'études qui sont faites là récemment et qui montrent que, par exemple, ça aurait pu fluidifier le manteau terrestre, activer la tectonique, jouer un grand rôle aussi
dans l'habitabilité de notre planète.
Donc ce sont vraiment des paramètres très fins. Ce qu'on doit à la Lune, on va y arriver bientôt hein, avec Mathieu Novak, mais en attendant, à pression, hein, on l'a compris, parce que c'est quand même ça, hein, à pression, notre joyau terrestre et toutes les formes de vie qui vont avec. La singularité de la Terre, c'est votre enquête, Mathilde Fontaise, qui est parue dans ce numéro de janvier d'Epsilon, autour de la question comment la science infusée se diffuse. On va maintenant s'intéresser, bah oui, on l'a dit, à la Lune, à notre satellite, grâce aux échantillons collectés et rapportés par la récente mission chinoise Chang'e 5, du nom de la déesse chinoise de la Lune. Alors, ces très jeunes cailloux lunaires vont nous révéler des surprises à découvrir dans Science et Avenir avec vous, Mathieu Novak, juste après avoir exploré la face cachée de notre satellite, la face cachée de la Lune, avec le groupe québécois Deuxième Monde, la face cachée de la Lune, sur RFI.
La face cachée de la Lune. La lune ressemble, le soleil plombe, mais pas question qu'elle sorte de l'ombre. Star, dans tes pensées les plus tristes, pour que le mystère persiste, que personne sache qu'elle existe. Elle cache un cratère. Pour chaque tombe creusée sur terre, à chaque éclipse solaire, elle a l'air de te faire un clin d'œil. Elle vit au crochet du seuil de la pauvreté, se nourrit de nos peines, nos deuils et de nos cruautés. C'est un as pas comme les autres. Elle veut éviter le regard des astronautes. Sans le soir. La lune nous tourne le dos. Certains soirs, c'est même bizarre. La lune, on dirait qu'elle brille trop. Tant le soir, quand la ville dort, la lune nous cache son visage. La face cachée de la lune, quand t'es seul, il se fait tard. Et que le soleil se fait rare. Méfie-toi de la lune et de ses promesses. La lune et ses promesses. Quand t'es seul, il se fait tard. Et que le soleil se fait rare. Méfie-toi de la lune et de ses promesses. La lune et ses promesses.
Les États-Unis ont tué les Kennedy. La face cachée l'a retrouvé un alibi. Elle aime les armes, elle aime les bains de sang. Elle aime le Vietnam, elle aime l'Afghanistan. Si tu penses briser ses plans, viser ses flancs, apparemment ta vie en dépend. Comme deux amants ou comme le yin et le yang. Depuis la nuit des temps, avant même le Big Bang.
Avant même le Big Bang, la face cachée de la Lune par les Québécois du Deuxième Monde sur RFI. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse depuis la Lune jusque sur Terre, Mathieu Novak, vous revenez dans Science et Avenir sur ces échantillons lunaires, l'analyse de ces échantillons lunaires rapportés par la dernière mission chinoise Chang'e 5 qui livre enfin d'étonnants résultats.
Ah oui, puisque c'est passé un peu inaperçu l'année dernière, mais il faut se rappeler qu'on n'avait pas rapporté le moindre caillou lunaire depuis 1976.
Apollo.
En fait, on a toujours... Voilà, c'était après Apollo.
Après Apollo,
c'était une mission russe. Mais on a toujours cette idée. On a marché sur la Lune. Bon, c'est fait, on sait faire. Et en fait, on a complètement oublié, parce que les gens qui ont envoyé des missions là-bas, c'est des gens qui ne travaillent plus aujourd'hui. Donc, c'est un savoir-faire qui a été perdu. Donc, on se dit, tiens, on va retourner sur la Lune. Eh bien, ce n'est pas si simple. Plus un seul échantillon depuis 1976. Et là, les scientifiques chinois ont pris tout le monde de court. En moins d'un an, ils ont réussi à envoyer un petit rover qui s'est posé, qui, avec sa petite pelle, a rapporté quelques échantillons, les a rapportés et ils ont livré les premières analyses.
C'est quand même un exploit, d'autant qu'en plus, ces cailloux-là, ils ont été collectés sur une partie qu'on n'avait pas visitée de la Lune. Hein.
Voilà,
c'est ça, non explorée de la Lune.
Ce n'est pas la face cachée, pas encore, comme dans la chanson qu'on vient d'entendre. Sinon, mais en fait, on avait un problème. On a deux types d'échantillons. On a les échantillons qui ont été apportés par les missions Apollo. Donc, c'est entre 1969 et 72. Je rappelle pour l'anecdote que les premiers cailloux lunaires qu'on a rapporté, c'est Buzz Aldrin et Neil Armstrong, qui eux-mêmes, avec des petites pinces, ont rapporté, ont mis dans leur sac et sont venus avec. Ils ont rapporté 22 kilos. Au total, les missions Apollo, ils en ont rapporté 382 kilos.
Donc,
on en a beaucoup. Ouais. Et il en reste beaucoup parce que beaucoup a été stocké. On continue à les étudier. Après, les Russes qui ont allé jusqu'en 76 par des missions automatiques, ils en ont rapporté beaucoup moins. C'est 326 grammes. Donc, on n'est pas tout dans la même échelle et il n'en reste presque plus rien. Mais le problème de ces presque 400 kilos d'échantillons d'Apollo, des missions Apollo, c'est qu'elles ont presque toutes été prises dans la même région de la Lune. Donc on essaie de réécrire l'histoire de la Lune à partir des roches, comme si on essayait d'écrire l'histoire de la France, de la géologie de la France, en prenant juste des cailloux dans une seule région, à la montagne ou en Bretagne, n'importe où. Donc très compliqué. Donc là, le but des Chinois, c'était d'aller dans une autre région. et une autre région dont on pensait qu'elle serait plus jeune, parce qu'on savait que les cailloux des missions Apollo, c'était entre 3,1 et 4,4 milliards d'années. C'est très ancien, parce que la Lune s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Très intéressant à l'époque pour savoir les conditions de la formation de la Lune. Qui devait être sans doute très proche de celle de la Terre à l'époque, parce que la Lune est née d'un impact d'une petite planète avec la Terre. Mais par contre, pour savoir comment elle a évolué, là, on n'avait pas grand-chose. Et donc, ils ont rapporté ces échantillons et ils ont déjà livré les premières informations. Première information, c'est la datation. Bingo, on est effectivement un petit peu moins de 2 milliards d'années, 1,97, donc je rappelle contre 3,1 4,4 pour Apollo. Donc on a des roches beaucoup plus jeunes. Et ensuite, on continue les analyses, et là, plusieurs surprises. Et la première, c'est que c'est des roches, c'est que c'est des magmas. Des magmas, enfin, des basaltes, et donc c'est des roches volcaniques. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y avait du volcanisme sur la Lune 2,5 milliards d'années après sa formation.
Et ça, c'est totalement inattendu.
Inattendu et totalement inexpliqué. Il n'y a pas d'hypothèse. Il y a des hypothèses, mais il n'y a pas d'explication.
Oui.
On pensait qu'il y aurait peut-être des éléments radioactifs qui permettraient d'expliquer ça, du thorium ou de l'uranium. On n'en a pas trouvé du tout. Donc, piste à écarter.
Mystère, c'est
précis. Il y a plusieurs, maintenant, des simulations qui sont en cours. Une autre possibilité, ce serait que c'est des forces de marée, comme celles qui font bouger nos océans. À l'époque, la Lune était beaucoup plus proche de la Terre, peut-être à 2/3 de la distance. Et peut-être que ça crée des échauffements locaux qui pourraient expliquer ce volcanisme. On ne sait pas. Peut-être qu'il y a encore des structures minérales aussi à découvrir. On ne sait pas. En tout cas, ces premiers résultats, ils nous confirment l'âge jeune et le fait qu'on avait un volcanisme qu'on ne sait pas du tout expliquer pour le moment.
Donc on attend peut-être d'autres missions, chinoises ou pas d'ailleurs, qui pourraient ramener d'autres échantillons. On continue l'analyse, bien sûr.
Alors Philippe, on en a parlé tout à l'heure, les missions chinoises sur les 10 prochaines années, il y en a beaucoup de prévues, certaines habitées, certaines pas habitées, des Russes, des Américaines, les Chinois vont y retourner aussi, des Européennes. Donc on va effectivement continuer, mais pour le moment, le travail d'analyse de ces nouveaux échantillons ne fait commencer, et on va déjà continuer à les étudier.
Échantillons lunaires chinois nous dévoile une autre histoire, finalement, de la Lune. Article à lire dans Science et Avenir de ce mois de janvier, disponible en kiosque et que vous pouvez gagner chez vous, chers amis auditeurs qui vivez loin d'ici. Il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale. Autour de la question, comment la science infusée se diffuse depuis la Terre jusque sur Mars maintenant, on va retrouver Philippe Hénarejos de Ciel et Espace pour s'intéresser aux remous dans l'histoire de l'eau sur Mars. Cette fois-ci, à suivre après la fameuse question « Is there life on Mars ?» en version brésilienne par Seu George sur RFI.
Muitas vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul pode ter vida em Marte, então vem. A sua língua, então vem, que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida, então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars.
Life on Mars, Seu George revisite David Bowie et on ne s'en lasse pas sur RFI. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse dans ciel et espace, cher Philippe Hénarejos, vous revenez sur les remous de l'eau martienne. Il y a bien de l'eau sur Mars, mais peut-être même plus. Enfin, en tout cas, pas tout à fait comme on le pensait, c'est ça ?
Mais en fait, vous savez, on parlait tout à l'heure d'échantillons lunaires. Le problème pour Mars, c'est qu'on n'a pas un seul échantillon.
Et c'est ça.
Alors, on a quelques météorites qui sont censées être d'origine martienne, mais on ne sait pas d'où elles viennent exactement. Donc, ce ne sont pas des échantillons qui nous permettent d'étudier véritablement, ne serait-ce que la datation, des roches martiennes. Et tout ce qu'on fait sur Mars, c'est d'établir une histoire, une chronologie à partir de ce qu'on voit de l'orbite et de ce que voient les robots comme Curiosity ou Perseverance à la surface de Mars. Alors, dans ce cadre-là, il n'a échappé à personne que depuis 1972, date de la mise en orbite de Mariner 9, la première sonde qui s'est mise en orbite autour de Mars, on a découvert qu'il y avait des fleuves sur Mars. Alors, des fleuves, il n'y a pas d'eau dedans, mais c'est les traces d'anciens fleuves. Ce sont des vallées fluviatiles. On trouve qu'il y a des gros canyons, il y a des grandes rivières, il y a des réseaux de fleuves, un peu comme, vous savez, des bassins versants sur Terre, avec des affluents qui se jettent dans des cours d'eau plus gros et qui se jettent dans d'autres, et puis bon, qui vont finir quelque part dans des cratères. Donc on sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Maintenant, les astronomes et les chercheurs essaient de comprendre l'histoire de cette eau sur Mars, parce que, évidemment, c'est une source d'espoir. S'il y a eu de l'eau, naguère, il y a 4 milliards d'années, c'est qu'on se dit que les conditions étaient peut-être similaires à celles de la Terre à cette époque-là, et on sait bien que sur Terre, la vie est apparue. Mais sur Mars, ce qu'on observe là, toujours à distance ou toujours par robot interposé, c'est parfois contradictoire. C'est-à-dire que les robots qui sont posés dans des cratères qui étaient supposés être des lacs, comme Perseverance ou Curiosity, ben ce n'est pas si simple. Il y a des indices contradictoires qui font que, certes, on a observé des galets, on a observé des roches qui ont été roulées certainement par le courant, mais est-ce que cette eau qui était probablement là a rempli les cratères au point d'en faire des lacs? Est-ce que ça a duré des centaines d'années, des milliers d'années, des millions d'années? On n'en sait pas grand-chose pour l'instant. Alors, il y a des débats au sein de la communauté scientifique et l'article que nous publions fait état de ces débats. Et il y a tout un tas d'interprétations possibles. Et évidemment, Perseverance, on l'espère, va nous permettre à terme d'y répondre avec ces fameux échantillons qu'il va déposer à la surface et qu'un rover futur viendra chercher pour qu'on les ramène sur Terre et qu'on les analyse enfin en laboratoire.
C'est ça, mais ça va prendre du temps avant de mieux comprendre tous les paradoxes de l'eau sur Mars. On attend donc le retour des échantillons de Persévérance. Cet article s'intitule « Remous dans l'histoire de l'eau martienne » et c'est vraiment à lire dans Ciel et Espace. Où vous avez aussi, alors on devait en parler, mais ça va être un petit peu juste, peut-être qu'on fera ça le mois prochain, Philippe Hénarejos. Vous avez aussi enquêté sur des galaxies très lointaines où la formation d'étoiles s'est arrêtée. Je propose, chers amis auditeurs, de tenter de gagner ce numéro de Ciel et Espace pour pouvoir lire cet article sur la naissance de ces galaxies un peu en panne pour remonter le temps. Tout ça, c'est dans Ciel et Espace. Merci, Philippe Hénarejos. Ciel et Espace qui est en kiosque et vous pouvez recevoir donc en cadeau par mail ou sur notre page Facebook. Chers amis auditeurs et astronomes amateurs, un petit rappel, justement, le 17 janvier prochain, nous annoncerons sur notre antenne, dans Autour de la question, le ou la, qui sait, prochaine lauréate d'une lunette astronomique sur le continent, en partenariat avec la revue web L'Astronomie Afrique, RFI et SSVI. Qu'on se le dise, et ça, c'est pas de la science-fiction. On écoute tout de suite Christine and the Queen, science-fiction sur RFI de circonstances avant de vous retrouver, cher Thomas Cavaillé, pour Science et Vie et pour une enquête entre science et science-fiction précisément sur les embryons humains artificiels. Science ou science-fiction ? Jamais, and the Queen sur RFI Science et science-fiction, c'est ça, hein, avec vous, Thomas Cavalier-Foll dans Science et Vie, autour de ces embryons artificiels que de nombreux chercheurs dans les laboratoires du monde entier cherche à créer pour le meilleur ou pour le pire. Vous y consacrez un article.
Hein. Oui, tout à fait. C'est plus de la science-fiction, effectivement. C'est ça, en 2021, hein. On a vu apparaître au moins six équipes de recherche qui ont réussi à créer des embryons humains artificiels. Alors, ça avait déjà été fait chez des souris, mais en 2021, ça arrive chez l'humain. En fait, donc, un embryon, normalement, c'est issu de la fusion entre un ovule, un spermatozoïde, en tout cas, chez les mammifères. Et là, en fait, les blastoïdes, comme on les appelle, les embryons humains artificiels, ils ne passent pas du tout par cette case-là de fusion des gamètes, en fait. Ils sont issus de cellules souches ou de cellules de la peau que l'on vient différencier, qu'on rend naïves. Et ensuite, on les met dans des cocktails de croissance, on les assemble ensemble dans des petits puits en plastique, on peut en faire des centaines comme ça. Et en fait, ils viennent mimer complètement le comportement des blastocystes, les embryons naturels, en fait, quelques jours après cette fameuse fécondation. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une forme en cavité creuse où vient se tapir un amas de cellules. Et puis ensuite, ces cellules-là, elles-mêmes, elles se différencient toutes seules pour donner deux populations distinctes qui viennent normalement faire le placenta et d'un côté, et puis l'embryon de l'autre. Et puis, il y a d'autres cellules qui se différencient. Il y a même une asymétrie qui se fait, qui montre l'endroit où normalement, sur ces blastoïdes, ils devraient venir se nicher sur la paroi utérine. Et plus encore, les chercheurs ont réussi, en les mettant en contact avec des parois, des sortes de substances mimant cette paroi utérine, à les faire se nicher, comme s'ils allaient se nicher, continuer leur développement.
Donc c'est complètement fou, c'est vraiment, ils miment la réalité du développement d'un embryon, donc c'est extraordinaire pour les chercheurs de pouvoir les étudier. Ouais,
c'est ça, c'est une...
Mais ça fait aussi quand même très apprenti sorcier, enfin, voilà.
Ça fait apprenti sorcier, pas tant pour l'instant, parce que là, on est vraiment dans la recherche pure. Hein. C'est-à-dire que pour observer les premières étapes du développement, en fait, c'est super compliqué déjà, parce qu'on n'arrive pas à le faire, sauf dans de rares cas de fécondation in vitro où le couple fait don en fait de l'embryon à la recherche. Là, les chercheurs pouvaient jusqu'ici un peu étudier le phénomène jusqu'au 14e jour, parce qu'à partir de 14 jours, on doit se débarrasser de l'embryon. On peut pas continuer des études comme ça. Donc là, c'est vraiment une chance de pouvoir créer ces petits blastoïdes, ces embryons humains artificiels. Mais comme vous l'avez dit, de toute façon, on va dire les dérives arrivent. Là, pour l'instant, ça n'est pas arrivé. On va pas se projeter là-dessus. Mais après CRISPR, par exemple, on sait très bien qu'il y a un chercheur chinois qui a créé les premiers humains génétiquement modifiés chez deux jumelles immuniser contre le VIH.
On peut redouter le pire, mais en attendant de pouvoir observer ce miracle, envie de le dire comme ça, qui est vraiment le développement embryonnaire de la vie humaine, ça va permettre quoi de vous parliez des filles, des fécondations in vitro, d'améliorer, de mieux connaître les phénomènes inverses, enfin les infertilités.
Exactement. Ça a énormément d'applications possibles. Donc, vous l'avez dit, pour améliorer les filles, pour voir pourquoi, par exemple, chez certaines personnes, l'embryon fait mal sa nidation, pourquoi il ne se différencie pas bien. Tout ça, ça va être quelque chose qui va pouvoir être fait. Parce qu'en fait, ça crée des véritables clones de vous-même. Parce que c'est à partir de vos cellules souches ou à partir de cellules souches de tes parents. Donc, on crée un véritable tout petit clone.
Petit clone de nous, mais à partir de cellules souches.
Donc, par exemple, la première application là, qui a été trouvée, déjà, grâce à ces blastoïdes, c'est de nouveaux moyens de contraception. Par exemple, pour empêcher justement la nidation de l'embryon, ils ont trouvé des molécules qui étaient vachement bien plus propres, moins hormonales, qui permettaient d'empêcher la nidation. Et donc, on pourrait voir survenir de nouveaux moyens de contraception grâce à cette recherche-là.
Donc ça, c'est formidable. Et puis, on peut peut-être comprendre aussi, un peu mieux comprendre comment...
Le développement,
qui est quand même une des questions majeures aujourd'hui. Donc, attention effectivement aux dérives possibles. Hein. Il faut vraiment des lois éthiques, Mais en même temps, c'est quand même pour la connaissance et pour
une avancée scientifique extraordinaire et qui va très très vite parce qu'ils sont pas encore parfaits. Ces embryons humains artificiels, mais il y a des grandes comparaisons qui sont en train de se lancer entre justement le comportement génétique, les gènes exprimés par les embryons naturels et les blastoïdes d'aujourd'hui, et ils sont en train, en gros, de réguler afin que ça mime au plus près possible la réalité.
justement jusqu'où, hein, jusqu'où
on se demande jusqu'où.
Si on laissait aller aussi ces embryons, enfin, qu'est-ce que ça ferait, des clones possibles.
Alors, il y a en 2018, donc c'était le tout début de la recherche, et chez la souris, ils ont même tenté de l'implanter dans un utérus de souris.
Ouais.
Alors, il a continué un peu son développement, mais ça n'aurait jamais donné de souris. Hein. On n'en est pas encore là, c'est pas possible.
Heureusement, ça ouvre quand même un champ de recherche extraordinaire.
Exactement, c'est quand même une révolution un peu dans la biologie.
Hein. Absolument, révolution biologique pour le meilleur, et on l'espère pas pour le pire. Les embryons artificiels débarquent dans les laboratoires, enquête exploratrice à lire dans Science et Vie de ce mois de janvier, dont nous avons aussi un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditeurs à bon entendeur, vous restez avec nous, Thomas Cavalier-Foll, car on va faire un petit bilan autour de la question comment la science infuse en 2022, en fin d'émission, mais avant cela, place au silence, oui, au silence, bénéfique pour nous régénérer. C'est le dossier du mois de Cerveau et Psycho que nous allons partager, mais pas tout à fait en silence, heureusement, avec Cécile Estienne, juste après avoir écouté les plus célèbres Sounds of Silence de toute l'histoire de la pop, Simon et Garfunkel sur RFI.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence.
Sound of Silence sur RFI. Je ne vais pas me mettre à chanter puisque c'est Cécile Estienne. Il s'agit, dans Cerveau et Psycho, de parler des bienfaits du silence, l'énergie douce qui régénère le cerveau carrément.
Absolument. En fait, nous avons voulu parler du silence à cause du bruit, bien sûr. Nous vivons dans un environnement sonore assez prégnant, n'est-ce pas ? Alors que ça soit agréable avec la musique ou moins agréable parce que vous entendez la perceuse de votre voisin, les cris de votre voisin, les moteurs de voiture, les pétarades des motos, enfin bon, tout ce que... Vous pouvez au point d'ailleurs qu'il y a une vingtaine d'années, l'OMS avait qualifié dans un de ses rapports la pollution sonore de fléau moderne. Parce qu'effectivement, on a d'ailleurs montré que vivre à côté d'un aéroport ou d'une autoroute, voilà, augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de dépression et différents autres problèmes immunitaires. Donc le bruit est un vrai problème. Alors pourquoi le bruit est un problème ? C'est parce que notre système auditif est fondamentalement un système d'alerte. En fait, quand vous entendez un bruit...
C'est pour qu'on réagisse. Hein.
Absolument, absolument. Voilà, votre attention se focalise, votre cœur commence à battre un peu plus vite, vos muscles se tendent, voilà, et vous êtes prêt à déguerpir devant l'ours des cavernes, si vous étiez une femme de Cro-Magnon, Caroline, ou devant la moto qui déboule, si vous êtes à Paris, aujourd'hui. Voilà. Et donc, derrière ce système d'alerte, il y a une activation de votre système nerveux autonome. Alors, on revient un petit peu au cours de SVT du lycée, là, qui a deux sous-systèmes. Hein. Vous savez, le système sympathique, excitation, voilà, de ce système nerveux autonome, et le système parasympathique, qui lui est apaisant, et c'est l'équilibre entre les deux qui est important. Voilà. Alors que, effectivement, le bruit excite le système-là. Et puis, il y a une autre action sur l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, voilà, enfin, bon, qui fait
sur
que.
Sur notre cerveau, oui, voilà, et nos hormones.
Qui fait qu'en fait, on sécrète notamment. Du cortisol, voilà, qui est l'hormone du stress. Voilà. C'est ce qui vous permet de rester vigilant et de vous tendre comme ça. Et c'est très important dans la vie en général. Mais effectivement, si ça dure trop longtemps ou si c'est trop fort, voilà, ça fatigue.
Ça use. Il faudrait donc pauses de silence, en fait. C'est ça, on a besoin de silence. C'est un peu ça aussi.
Un peu, parce que c'est-à-dire, en fait, c'est l'équilibre de ces systèmes, comme je le disais tout à l'heure. Il faut revenir, voilà, donc il faut régénérer, si on peut dire, de tout ce système. Et il se trouve que c'est par le silence qu'on peut le faire. Alors, bon, si
qu'est-ce
vous
qu'on
allez,
entend par silence
si ouais. vous, alors, il y a plusieurs types de silence. D'abord, c'est l'absence de bruit, évidemment. Et ça marche. Alors, il y a une expérience que l'on raconte dans un article qui est assez amusant, des chercheurs italiens de l'université de Pavie, qui au début ne travaillaient pas du tout sur le silence. En fait, ils cherchaient à mesurer l'influence de la musique sur le système cardiovasculaire. Mm-hmm. Donc, ils ont demandé à des participants d'écouter de la musique. Ils ont d'abord mesuré leur respiration, la pression sanguine, le rythme cardiaque. Voilà. Ils leur ont fait écouter différents types de musique, de la musique classique à la techno. Voilà. Et puis, alors, entre chaque morceau de musique, évidemment, ils faisaient des plages de silence pour bien faire attention à bien distinguer les mesures. Voilà. Et en fait, ils se sont aperçus de quelque chose de très étonnant. Alors, quelque chose qui n'était pas étonnant, c'est qu'effectivement, les musiques très rythmées voilà, faisaient augmenter ces paramètres. Mais les plages de silence faisaient descendre sous la ligne de base de ces paramètres qu'ils avaient mesurés au départ. Donc voilà, et c'est là qu'on s'est aperçu que le silence avait vraiment une action apaisante. Voilà,
Une action régénérante. Donc on ne va pas en dire tellement plus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, non. Cécile Estienne. Je vais renvoyer tous nos amis auditeurs sur ce formidable dossier sur le silence, hein, dans lequel absolument. Vous avez aussi interrogé un chercheur en neurosciences. Enfin, on découvre vraiment.
Quel est Michel Levent-Cuyenne de qui est docteur en neurosciences, voilà, et qui est directeur de recherche à l'INSERM, et qui a écrit tout un livre sur le silence en tant que manque de bruit, mais aussi le silence en tant que maladie attentionnelle aussi, le silence comme remède à la maladie attentionnelle
c'est
du siècle.
Le silence qui permet d'entendre et d'écouter les autres, ça absolument. C'est pas mal. Donc je renvoie sur cerveau et psycho. Avant de nous quitter, Cécile Estienne, qu'espérez-vous pour 2022, scientifiquement parlant, un peu plus de silence peut-être, mais à part ça.
Eh bien, comme Mathieu Novak tout à l'heure, j'attends quand même beaucoup, effectivement, de tous les progrès qui ont été faits dans la recherche ARN, et notamment sur des vaccins contre le sida et le paludisme. Et puis aussi, l'ONU vient de déclarer que 2022 serait l'année de la recherche fondamentale pour le développement durable. Et je me dis que ça, c'est une très bonne idée.
Et on va en reparler très bientôt, parce que ça nous intéresse, et ça intéresse tous nos auditeurs au Sud, évidemment, recherche fondamentale pour le développement durable. Phrase de conclusion, cher Thomas Cavaillé-Foll, pour 2022. Qu'espérez-vous? Qu'attendez-vous? Vous avez, 10 secondes.
Comme on a dit tout à l'heure, les premières photos du James Webb Télescope, oui. Forcément. Mais aussi les nouveautés dans des géants de la tech, notamment dans la réalité virtuelle, parce qu'on nous a annoncé le métavers et on ne le voit pas encore venir.
Le métavers, pour quand le métavers? Merci Hugo Violas, de l'autre côté de la vitre à la réalisation, et Caroline Fillette en coulisses.
Tout à l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles avec Jean-François Cadet.
En l'an 976, un eunuque grassouillé, une esclave copiste polyglotte et un jeune voleur plutôt malin vont tenter de sauver de l'autodafé quelques dizaines d'ouvrages précieux grâce à une vieille mule. La Bibliomule de Cordeau, une belle BD d'aventure, érudite et fantasque, signée Lupano et Cheminot.
Vous m'en direz des nouvelles? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI.
7 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Se former au métier de l'architecture en Afrique. Comment les écoles s'adaptent à la taille des villes.
Vendredi.
Vêtements, accessoires et si nous faisions la géopolitique du luxe dans le monde.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41. 7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Merci d'être à l'écoute de RFI, les 16h à Paris, 15h en temps universel et 10h à Port-au-Prince.